Voilà, 3,2 kg et 48 cm, ça va barder. C'est le message qu'on a reçu aujourd'hui d'Antoine Chao. Et de quoi s'agit-il? 3,2 kg et 48 cm. Eh bien, il s'agit de Marguerite. Il faut absolument qu'elle s'appelle Marguerite. C'est Marguerite Libertad Chao, qui est née ce matin à 9h. Et on est très content, on est très ému. On a déjà les photos de Marguerite Libertad. Voilà, on s'embrasse très fort tous. Et on embrasse la maman Sylvie et le papa Chao et la petite Marguerite Libertad, ciao, bienvenue.
Oui, bonjour la Maison Hermée. Sans aucune prétention, j'aurais souhaité essayer de parfaire un petit peu votre culture d'entreprise. Je suis en effet chef d'entreprise, j'ai repris une entreprise familiale il y a à peu près 13 ans, qui allait très très mal. Donc c'est vrai que je me sens concerné par les licenciements, compte tenu que j'ai licencié quelques personnes à une époque. J'ai aussi embauché beaucoup, plus du double à aujourd'hui. Donc j'ai une invitation à lancer à votre équipe et à vous-même. Je suis prêt à vous accueillir dans mon entreprise avec l'ensemble de mon personnel et que vous puissiez faire une émission et voir un petit peu l'autre côté du monde de l'entreprise. Je pense qu'on en a vraiment assez d'être assimilé à des entreprises du CAC 40. On n'a pas de parachute doré. On marne avec nos employés comme des cons toute la journée pour essayer de s'en sortir. Et voilà, ça c'est quelque chose que je retrouve pas dans votre émission. L'entreprise, c'est pas uniquement Nestlé et compagnie et tous ces gros patrons qui appartiennent au MEDEF. Je me sens pas du tout concerné.
C'est Simone de Bagrébu-du-Rhône. Je vous appelle car vraiment je suis excédée dans ces chômeurs qui pleurent alors que dans le midi on manque de bras dans le bâtiment, on manque de plombiers, on manque de carreleurs, on manque de menuisiers, on manque de tout et les gens qui attendent tranquilles derrière le téléphone. Heureusement qu'il y a cet artiste peintre là qui m'a vraiment fait plaisir. Tous ces gens qui ont des beaux diplômes, mais créez vos boîtes, bon Dieu, secouez-vous. Allez, c'est tout ce que j'ai à vous dire.
Bonjour, je m'appelle Cathy, je suis comédienne et je voudrais dire toute mon admiration à cet artiste peintre qui a fustigé hier mercredi tous ces moutons de chômeurs imbéciles et sans créativité qui ne rêvent que de retrouver un travail salarié. Je dois avouer que hier soir, en m'endormant, je n'ai pu m'empêcher de fantasmer sur la vie si riche et si palpitante de cet homme si créatif et de sa progéniture tout aussi exceptionnelle. Je l'imaginais refusant des soins hospitaliers en crachant à la gueule de ces abrutis d'infirmières salariées sans créativité qui pourraient le soigner. Je l'imaginais goudronnant puis balayant le trottoir devant sa porte tout en riant au nez de tous les abrutis de moutons de salariés sans créativité qui auraient voulu le faire à sa place. Je l'imaginais enfin fabriquant lui-même ses pinceaux, ses toiles et ses couleurs sans utiliser le moindre élément qui aurait pu passer entre les mains d'un abruti de salarié sans créativité. Et enfin, je l'imaginais refusant avec grandeur que la moindre de ses œuvres puisse être choisie ou achetée, ou même regardée par un quelconque et minable mouton de salarié sans créativité. Enfin, un homme libre, exceptionnel, qui n'a besoin de personne. En un mot, un créatif. Ah, au fait, ça c'est un PS. J'aime pas beaucoup la nouvelle patronne du MEDEF. Vous voulez pas vous présenter, monsieur le créatif ?
Petite réponse à l'artiste peintre, hyper créatif et moqueur, qui s'excite au téléphone, comme moi, souvent. Je pense que lui-même n'est pas si étranger au capitalisme créatif d'aujourd'hui. Il faudrait lire le livre de Boltanski, pas l'artiste, le sociologue, qui montre bien que l'artiste aujourd'hui est le concept étalon du turbo-capitalisme prédateur. Alors, tous artistes ? En attendant, on peut toujours lire le livre de Gilles Châtelet, « Vivre et penser comme des porcs ». Aux éditions Exil. À bientôt.
C'est Florence de Strasbourg. Alors, je voulais proposer donc un repère de là-bas si j'y suis, qui aura lieu alors la première fois où nous nous réunirons. Pour le repère de là-bas si j'y suis, ce sera le samedi 17 septembre à 14h au marché bar à Strasbourg. Je répète, le samedi 17 septembre à 14h au marché bar à Strasbourg. Les repères de là-bas si j'y suis. Voilà. Merci. Au revoir.
Voilà, un repère de là-bas si j'y suis. Soyez aimable de compléter vos messages en nous donnant votre téléphone. Ce ne sera pas communiqué à l'antenne, mais ça nous permettra de vous rappeler et puis de nous indiquer aussi le téléphone du bistrot que vous avez repéré pour créer des repères de la base. Si j'y suis, je le rappelle, il s'agit de de se retrouver entre auditeurs de France Inter et spécialement de la base. Si j'y suis, vous avez des voisins, vous savez pas, dans le coin qui écoutent aussi l'émission. Peut-être que vous avez envie de vous retrouver entre vous. Donc là, on est en train de chercher des repères. On en a trouvé déjà quelques-uns. Et ils sont, vous pouvez les retrouver sur le site en allant sur Radio France et en se dirigeant vers France Inter. Vous trouvez la liste de ces lieux. Mais soyez aimable de nous préciser qui est le correspondant. C'est-à-dire, par exemple, cette auditrice, elle nous donne son numéro et puis le numéro du bistrot de façon à ce qu'on puisse les contacter. Donc on continue. Là, il y a un auditeur qui a trouvé un endroit en Patagonie. Pourquoi pas? Hier, c'était en Inde. Il y en a un autre qui se prépare à San Francisco. Ça, c'est très loin, mais c'est aussi bien au coin de la rue, dans le village à côté. Aujourd'hui, on va continuer avec le chômage. Pourquoi? Parce que on a eu ces témoignages, l'itinéraire de ce cadre jetable, et puis hier, vos réactions, messages, témoignages dans tous les sens. Là, cet artiste peintre là a été pris à partie vraiment sur le répondeur de la base. Si j'y suis. Aujourd'hui, on va essayer d'être précis puisque on reconnaît bien que tout ça, c'est des intuitions, c'est des puces à l'oreille, c'est des choses très impressionnistes. Alors là, on va être précis, très 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 précis. Aujourd'hui, avec Guy Van Til, on va regarder de près à la loupe les chiffres du chômage. Rien n'est plus précis qu'un chiffre, évidemment. Et ben, on va voir. Vous en doutez que ces chiffres sont tout à fait discutables et tout à fait douteux. Mais on va en douter ensemble avec sociologues, économistes et aussi des témoignages récoltés au cours de ces années de reportages sur ce thème essentiel de non seulement du chômage, mais de la précarité, de la précarisation de la société, de la montée des inégalités et de l'insécurité sociale généralisée. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur de la base. J'y suis, 01 56 40 37 37.
Bonjour Daniel Mermet et toute l'équipe de là-bas, si j'y suis. Je suis Max de Lyon, je vous écoute régulièrement. Mais Daniel, je t'appelle justement parce que je suis noir de peau, mais c'est pas méchant, hein. C'est accepté, c'est vécu, c'est génial. Mais je veux juste que tu te mettes dans ma peau un tout petit peu, parce que ces derniers temps, j'ai entendu parler de moutons noirs, de listes noires, de séries noires, de tout est noir en ce moment. Et j'ai des amis blancs qui vivent à côté de moi, et qui ont du mal des fois à prononcer ce mot, parce que ce mot se rattache tellement à tout ce qui est mauvais. Ça m'emmerde, ça me fait chier. J'aimerais bien qu'on trouve autre chose à dire, que chaque fois qu'il y a une merde qui ne va pas, c'est noir. Putain que c'est noir. Merci. Ciao.
Bonjour à toi Daniel et à toute ton équipe. Le jeudi 22 septembre à 9h sont convoqués 25 maires de Creuse et de Haute-Vienne, dont je fais partie, devant le tribunal administratif de Limoges pour avoir osé prendre un arrêté anti-OGM sur leur commune. Voilà, à l'heure de la malbouffe et de tous les périls qui nous entourent, il serait bon que toutes les personnes sensibilisées par ces organismes génétiquement modifiés puissent éventuellement soutenir les élus et être présents à 8h30 le 22 septembre devant le tribunal administratif. Bon vent à tous, salut.
Je voudrais te dire et dire à tous les chômeurs qui se sentent concernés par le système ultralibéral dans lequel on vit et qui nous amène tout droit dans le mur, et que le constater tous les jours un peu plus, le 4 octobre, il y a une manif unitaire intersyndicale, qui je pense nous concerne tous, et qui concerne en premier lieu les chômeurs. Alors, ceux qui se sentent concernés et qui ont envie de bouger, c'est dans la rue que ça se décide, et dans les urnes. C'est pas en parlant entre nous comme ça qu'on résoudra les problèmes. Il y a 200 ans, on l'a déjà prouvé, on peut recommencer. L'histoire est un éternel recommencement tant qu'on n'a pas compris la leçon. Et la leçon est simple pourtant, elle tient trois mots, amour, partage et justice. C'était Patrick de Toulouse.
L'ANPE vous remercie de votre attention. Nouvelle augmentation du chômage en juillet.
Il faut savoir que le pire ennemi des profits, c'est le plein emploi.
Le plus mauvais résultat pour l'emploi.
C'est le plein emploi. Or, on est loin du plein emploi.
Plus 6%.
0,5% du taux de 1,6, alors que...
Plus 0,5%.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas, si j'y suis, avec Guy Van Cleef. Chiffre du chômage, nombre de chômeurs.
Pour déclarer une absence de votre domicile, tapez 1. Un arrêt maladie, tapez 2. Une reprise d'activité, tapez 3. Une entrée en stage, tapez 4.
Plus 6%.
0,5% du taux de 1,6, alors que...
Plus 0,5%.
Ce qui fait un total de 100 000 chômeurs en plus.
Ni bon, ni mauvais.
Le ministère de l'Emploi parie d'ailleurs sur cette reprise au second semestre.
2 212 000 Français sont au chômage et avec cette...
Le nombre de chômeurs a augmenté de 2,2%.
De 0,5%.
13,5%.
C'est un vrai souci pour le gouvernement. Une nouvelle qui tombe...
Les syndicats n'ont pas la même lecture de ces chiffres. La CGT déplore la méthode.
Mais en fait, de ralentissement, ce sont eux qui craignent. Et de plus en plus. Depuis le début de l'année, près de 4000 emplois temporaires ont été supprimés dans la téléphonie mobile.
Les chiffres, je ne voudrais pas vous ennuyer avec des chiffres. On connaît cette phrase-là, hein, on l'entend souvent cette phrase-là. Je ne voudrais pas vous ennuyer avec des chiffres. Une autre phrase qu'on entend très souvent, c'est « les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut ». On entend souvent aussi celle-là. Et troisièmement, ce qu'on entend aussi souvent, c'est « Ah oui, mais faut voir comment c'est calculé ». Donc, les chiffres sont importants, mais dans ses limites. Que mieux vaut ne pas trop en parler, on peut leur faire dire ce qu'on veut, et on ne sait pas très bien comment ils sont calculés. On a pris avec l'ami Guy Van Cleef le chiffre le plus important, politiquement parlant, médiatiquement parlant, qui est le chiffre du chômage. Et chiffre du chômage, c'est pas nombre de chômeurs. Déjà, sur simplement les expressions, le langage, on voit déjà quelque chose qui peut nous accrocher l'oreille. Ensuite, prenons des chiffres. Prenons le chiffre 8,3. Et le chiffre 8,4. Il n'y a pas beaucoup de différence entre 8,3 et 8,4. Mais si nous prenons le chiffre 10 et si nous prenons le chiffre 9,9, eh bien la différence est énorme. On appelle ça un seuil ou une barre psychologique. Chose que savent tous les soldeurs de chaussures et le gouvernement. Que s'est-il passé début août? Eh bien, le chômage repasse sous la barre des 10%. C'était la bonne nouvelle, la grande nouvelle du mois d'août. Miracle, mais quand même avec des bémols côté syndicat qui se déclare perplexe sur les modalités de sortie des fichiers de la NPE et la multiplication des radiations administratives. La stratégie, en effet, on l'a essayé de la mettre en lumière, mais c'est passé derrière l'effet d'annonce de la bonne annonce, de la bonne nouvelle. Mais cette stratégie consiste à convoquer un certain nombre d'inscrits à la NPE, et on sait que lorsqu'on les convoque, eh bien, il y a toujours 10% qui ne se présentent pas. Donc, voilà, on baisse le chiffre d'autant. Ça va se faire très prochainement, c'est en cours, avec la SS, c'est-à-dire l'allocation spécifique de solidarité, qui concerne quand même 437 000 personnes. Monsieur Jean-Louis Borloo a demandé à la NPE de convoquer les bénéficiaires, évidemment, entre guillemets, de cette allocation, eh bien on sait que partie d'entre eux ne répondront pas à cette convocation et on peut estimer que d'ici, on peut prévoir que d'ici à la fin de cette année, le chiffre de l'ASS baissera. Voilà encore une bonne nouvelle. On peut s'interroger sur ceux qui transportent et portent ces bonnes nouvelles sans y regarder de plus près. Alors on va essayer de comprendre un petit peu comment ça marche, quels sont, qu'y a-t-il derrière ces chiffres, comment on les éclaire, comment on les fait parler, comment on les obtient, avec trois chercheurs autour de Guy Vanctil, Margaret Marvani, qui est sociologue au CNRS, qui est fondatrice du groupe Marché du travail et genre, qui est auteur d'un bouquin qui s'appelle Les mécomptes du chômage aux éditions Fayard, Thomas Coutreau, qui est économiste à la DARES, la direction de l'animation, de la recherche des études et des statistiques au ministère de l'Emploi, qui est également membre du réseau d'alerte sur les inégalités, animateur de l'appel des économistes pour sortir de la pensée unique, et un autre économiste, on a les moyens là-bas si j'y suis, Pierre Concialdi, qui est économiste à l'IRES, Institut de Recherche Économique et Sociale. Donc vous avez vu, du beau monde, des spécialistes, comme on dit, quand on fait de la vraie radio et qu'on est des vrais journalistes, pour essayer de nous éclairer sur les métamorphoses de la question sociale. Et évidemment, vous vous souvenez de la fameuse fracture sociale de 1995 qui avait valu à l'actuel président de bonne fortune auprès de nous autres électeurs. On sait que on estime le chiffre du chômage tourne autour actuellement de 2,5 millions de Français qui sont au chômage, mais on sait aussi qu'il y a autour de ce noyau, il y a un halo, ce qu'on appelle un halo, le halo du chômage. Et si on prend compte, tient compte de ce halo de chômage, eh bien, c'est 5 millions de personnes qui sont exclues ou fragiliser, ce qui est considérable. Mais qu'est-ce que c'est que ce halo? Ben, halo, par nature, ça veut dire flou. On va essayer d'en savoir un peu plus de choses. Mais il y a une chose qui est très intéressante dans les chiffres qui sont produits, puisqu'on va parler beaucoup de chiffres aujourd'hui, c'est l'augmentation de la précarité, l'explosion, peut-on dire, de la précarité en 20 ans. Je veux dire, mais attendez, sur 20 ans, c'est pas une explosion. Si on prend le temps long un peu de l'histoire et de l'histoire sociale en particulier, c'est quand même une période extrêmement courte. Écoutez, plutôt de 1983 à 2003, le nombre des salariés en intérim est passé de 113 000 à 361 000, soit plus 316%. Celui des salariés en CDD est passé, toujours en 20 ans, de 263 000 à 1 624 000, c'est-à-dire plus 517%. Celui des emplois aidés est passé de 375 000 à 503 000, c'est-à-dire plus 34%. Et celui des salariés en sous-emploi, c'est-à-dire temps partiel, etc., bien, ce chiffre est passé de 148 000 à 1 186 000, soit 701%. Toutes les formes d'emploi précaires ont donc connu un développement fulgurant au cours de ces 20 années, alors que dans le même temps, le nombre des emplois statutaires, c'est-à-dire CDI ou emploi public, ne passait que de 16 millions 804 000 à 18 millions, c'est-à-dire une augmentation de 12%. Alors, ces chiffres, je vous assomme avec des chiffres, je ne voudrais pas ennuyer les auditeurs avec des chiffres, mais enfin, là, on a vraiment, à travers ces chiffres-là, des repères qui disent bien l'évolution de notre société, de notre pays, et on pourrait sans doute observer des phénomènes analogues dans des pays proches, je pense à l'Allemagne, mais sans doute aussi la Grande-Bretagne, malgré les maquillages et les tricheries sur les chiffres qui sont avancés. Qu'est-ce que ça raconte tout ça? Eh bien, ça raconte ce que vous avez raconté sur le répondeur, par exemple, hier, cette inquiétude, cette peur, cette angoisse, et tout ce qui fermente au fond de notre société, de notre pays, et qui évidemment un beau jour ou l'autre produira on ne sait pas quoi, peut-être le pire.
Merci Rhône-Alpes vous souhaite la bienvenue. Veuillez composer les 7 chiffres de votre identifiant. Vous connaissez cet identifiant. La CEDIC Midi-Pyrénées vous souhaite la bienvenue. La CEDIC de Paris vous souhaite la bienvenue.
Et nous aussi, on vous souhaite la bienvenue dans la base, si j'y suis, autour des chiffres du chômage et du nombre des chômeurs avec nos trois scientifiques, on peut dire, économistes et sociologues, en rappelant que concernant le chômage et les chômeurs, il y a 8 catégories et que c'est toujours la même catégorie qui est observée, qui est publiée. C'est-à-dire la catégorie numéro 1, mais pas les autres. Il y a la catégorie numéro 1, et puis après, il y a le halo. Et cette catégorie numéro 1, qui est le chiffre mensuel de la NPE, concerne les demandeurs d'emploi qui n'ont pas travaillé plus de 78 heures dans le mois, qui recherchent un CDI à temps plein, et qui sont immédiatement disponibles. Par exemple, si vous avez, avant de courir sur l'emploi qu'on vous offre, si vous devez vous occuper de la garde des enfants, trouver une crèche, je ne sais quoi, hop, vous n'êtes pas disponible, donc vous sortez de cette catégorie et vous rentrez dans le halo. Vous avez compris que nous mettons en doute, et nous ne sommes pas les seuls, ces chiffres qui sont publiés, mais qui ont tellement d'importance après pour les commentaires, les analyses, l'impression qu'on a de la santé sociale ou de la vie sociale dans notre pays. On sait à la fois que ces chiffres sont douteux, mais en même temps, les commentaires partent de ces chiffres. Il y a donc quelque chose qui va pas, et nos invités sont là pour nous éclairer.
Je suis Pierre Pontchaldi.
Je suis économiste à l'IRES, l'Institut de Recherche Économique et Sociale.
Ce que vous dites, c'est que ce chiffre n'est pas neutre, n'est pas politiquement neutre. C'est un chiffre qui est construit, qui est délimité. On délimite une partie de la population française en établissant une frontière. Et cette frontière-là, nécessairement, se discute. Le chiffre du chômage n'est pas une donnée brute.
Là, il faut remplir des conditions générales, c'est-à-dire être à la recherche d'un emploi, en rechercher un et être disponible pour l'occuper.
Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire ne pas être en stage, par exemple. Toutes les personnes qui suivent des stages sont, en tout cas provisoirement, indisponibles.
Si mon ANPE me propose une formation.
Exactement, vous n'êtes plus dans les statistiques du chômage.
Même si j'ai pas de boulot.
Même si, tout à fait, même et surtout, même je dirais, si vous n'avez pas de boulot, il faut ensuite rechercher un certain type d'emploi, c'est-à-dire que la statistique qu'on commande, c'est celle des gens qui recherchent un emploi à temps complet, et si vous recherchez un emploi à temps partiel, ou si vous recherchez un emploi à durée déterminée, vous n'êtes plus comptabilisé dans cette statistique officielle.
C'est-à-dire que ceux sont comptabilisés comme chômeurs, ceux qui veulent un CDI, quoi.
Un CDI à temps plein. À temps plein.
Ce qui est devenu rare de nos jours.
Ce qui est devenu assez rare, effectivement, surtout dans les embauches. Et troisième condition négligeable, si malgré tout, parce que votre indemnisation est faible et puis il faut bien vivre, vous acceptez un emploi, un petit boulot, comme on dit aujourd'hui, un emploi à temps partiel, donc moins de 70 heures par mois, eh bien vous n'êtes plus non plus comptabilisé dans la statistique du chômage. Ce qui fait que comme ça, alors qu'on avait 10% des demandeurs d'inscrits à la NPE au début des années 80 qui étaient hors statistique officielle, maintenant on est arrivé à plus de 40%. Donc on a progressivement sorti, rendu invisible une masse importante de personnes qui recherchent malgré tout un emploi sur le marché du travail.
Il y a ceux qui sont dedans et puis ceux qui sont pas dedans. C'est-à-dire ceux qui sont dans l'exclusion du chômage et ceux qui sont même pas considérés comme exclus par le chômage ou exclus de l'emploi. Qui sont les inactifs alors ?
Des inactifs, il y a eu depuis déjà près d'une trentaine d'années des mesures de pré-retraite. Donc ceux-là, ils basculent dans la catégorie des inactifs.
Ah non, maintenant, il faut que tu aies 40 ans de toute façon pour avoir le droit à quelque chose. D'un côté, ils te disent il faut partir en retraite de bonheur, j'étais plus bon à rien. Et de l'autre côté, on dit faut que tu fasses 42 ans. Donc, laisse pas. Alors, on fait quoi ?
Après 55 ans, les patrons ils ont bouché.
30 ans, on est trop jeune. 50 ans, on est trop vieux. Donc, je sais pas.
Ah, dans tous les domaines. Hein. Dans tous les domaines. Hein.
Margaret Maroni.
Les gens qui sont involontairement privés d'emploi mais qui ne sont pas comptés comme chômeurs, parce que c'est de ça dont on parle depuis un moment, il y a aussi un certain nombre de femmes qui ont pris, à qui on a offert une allocation parentale d'éducation. Vous savez que c'est une mesure qui existait depuis pas mal d'années et qui, à partir de 1994, a été ouverte aux familles ayant deux enfants. Jusque-là, c'était réservé aux familles de trois enfants.
L'APE,
qui est à peu près de l'ordre d'un demi-SMIC. Alors, la plupart de ces femmes, on a assez de recul maintenant pour savoir qui elles sont. Pour la plupart, ce sont soit des femmes qui étaient au chômage, soit des femmes qui étaient en situation de travail précaire et qui préfèrent gagner quelques centaines d'euros par mois en restant chez elles, plutôt que de gagner la même chose en trimant, comme caissière, comme femme de ménage, comme autre petit métier, aussi bien payé que ça.
Dans la formulation des choses, c'était offrir le choix à certaines femmes de pouvoir prendre le temps.
La formulation, c'était aux parents. Dans les faits, 98% des gens sont des femmes. Donc, moi, j'appelle ça une prime à l'inactivité. Bon, ça a permis, ça, que des femmes sans emploi ou en emploi précaire se retrouvent dans une catégorie politiquement neutre et tranquille. Elles ne sont plus chômeuses, elles sont inactives.
Et donc, on n'est plus dans les chiffres quand on est inactif?
Non. La mesure de l'activité, telle qu'on la définit statistiquement, c'est ceux qui sont sur le marché du travail, qu'ils aient un emploi, qu'ils en cherchent un. Les inactifs ne sont plus sur le marché du travail. Or, toute une partie des mesures dont on parle, toute une partie du travail qui a été fait ces dernières années, c'est non pas de s'attaquer à la racine du mal du chômage, mais d'essayer de canaliser une partie du non-emploi, de le déplacer, si je puis dire, de la case chômage à la case inactivité. Parce qu'une fois qu'on est passé dans la case inactivité, on cesse d'être dangereux.
Mon Dieu. Oh, j'ai peur. On sait que j'avais oublié mon dossier.
Alors, je vais vous poser certaines questions. Vous êtes suivie par une assistante sociale?
Actuellement, oui.
Est-ce que vous avez des difficultés liées au logement? Est-ce qu'il y a menace d'expulsion? Est-ce que c'est insalubre?
Menace d'expulsion, oui.
Vous avez reçu un avis de
huissier, des trucs comme ça? Oui, tout ça. Je suis allée au tribunal.
Ancienneté d'inactivité. Puis quand vous ne travaillez plus?
J'arrive à 3 ans, là. Pendant cette période des 3 ans, là, j'ai quand même effectué certains stages où j'ai travaillé un mois ou deux, par-ci, par-là, quoi.
Bon, votre besoin prioritaire, ce serait l'emploi, je pense.
Ah, tout à fait, oui. C'est 100% l'emploi.
Bon, voilà, je vous rends ça.
Merci.
Maman,
oui.
Pourquoi tu ne pas tes cours d'ici?
Bah, parce que moi, je suis pas venue pour dessiner.
Voilà, le chiffre officiel du chômage tourne autour de 2 500 000 personnes officiellement recensées comme demandeurs d'emploi. Il faut rappeler à nouveau que c'est la catégorie 1, mais il y a d'autres catégories, il y a 7 autres catégories qui sont des formes plus ou moins diffuses de chômage, ce qui représente 667 000 demandeurs d'emploi. Il y a là-dedans ceux qui ont travaillé plus de 70 heures dans le mois, les catégories 6, 7 et 8, 726 000 personnes à la recherche d'un contrat à durée déterminée ou d'un emploi à temps partiel. Si on ajoute aux chiffres de la catégorie 1 ces autres catégories, on arrive à un total de 3,7 millions environ, soit environ 15%. Alors c'est quand même pas mal. Et puis il y a les disparus. Les disparus de ce chômage. On a vu les femmes. Il y a les seniors, il y a les découragés. On continue avec nos trois chercheurs, Margaret Maroni, Thomas Coutreau et Pierre Concialdi.
Thomas Coutreau.
Oui, je pense qu'aussi une des catégories qui est devenue totalement invisible dans les statistiques officielles, c'est la catégorie des travailleurs de plus de 50 ans qui sont tellement usés par leur travail que plus personne n'en veut, qu'ils ne sont plus employables aux yeux des employeurs, à tel point que l'Agence pour l'emploi a officiellement reconnu que ce n'est pas la peine qu'ils en cherchent, c'est ce qu'on appelle les dispensés de recherche d'emploi. Donc c'est plusieurs centaines de milliers de travailleurs de plus de 50 ans qui sont officiellement dispensés de chercher un emploi. Parce que
c'est une manière jolie de dire bon à rien, non ?
Bon à rien du point de vue des entreprises, oui. Et alors, la plupart de ces gens, ce sont des gens qui ont commencé à travailler assez tôt, qui ont eu des emplois durs, des emplois d'ouvriers notamment, qui sont usés physiquement ou moralement par des années de travail, qui n'ont pas encore droit à la retraite parce qu'ils ne sont pas assez vieux, ils n'ont pas eu assez d'années de cotisation, et qu'on a mis dans un espèce de parking en attendant qu'ils aient droit à la retraite. Et il y a une espèce là de cimetière des vieux travailleurs mis sur le côté par la société qui leur donne une indemnité, souvent l'allocation de solidarité spécifique qui est extrêmement bas, enfin on ne peut pas vivre avec. Et donc là on a plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont été oubliées provisoirement en attendant que le régime de retraite puisse les prendre en charge et qui ne sont pas comptabilisées.
Je m'appelle Raymond et j'ai 56 ans. J'en suis à mon quatrième licenciement. J'ai commencé à travailler à 16 ans, 2 mois avant mes 16 ans. Je me suis habitué à vivre, j'appellerais ça Ricérac, quoi. Ricérac, si vous voulez, au minimum. Au minimum.
Donc, si je comprends bien, les femmes sont inactives, les seniors sont dispensés. Qui d'autre est dispensé, justement, d'apparaître dans les statistiques, dans le nombre des demandeurs d'emploi ? Margaret Marigny.
Les chômeurs ou les travailleurs découragés, c'est-à-dire ceux qui, à force de ne pas trouver d'emploi, ne font pas les démarches nécessaires, ne peuvent pas attester qu'ils sont des chômeurs actifs, c'est comme ça qu'on les veut, il faut qu'ils fassent des démarches, les chômeurs, il faut qu'ils cherchent, il faut qu'ils montrent qu'ils cherchent, il faut qu'ils prouvent qu'ils aient cherché, eh bien cela, ça en fait disparaître un certain nombre de nos statistiques également. Ils sont chômeurs souvent depuis longtemps, et à force de ne pas trouver du travail, ben écoutez, ils baissent les bras, ils n'en cherchent plus. Pour autant, ils sont toujours chômeurs.
Je m'appelle Claude, j'ai 37 ans. Je suis chômeur depuis un an et demi. Ça y est, je suis arrivé en fin de droit, là je touche mon RMI. Je compte faire de l'intérim, moi, pour l'instant. J'ai envie de faire de l'intérim. En disant que l'intérim, ça me convient, quoi.
Le fait du jour, Jean-Yves, c'est donc ce chômage qui baisse enfin.
Et de façon sensible, 25 600 chômeurs de moins en juillet, moins 1% après les 35 000 de juin. C'est le quatrième mois consécutif de baisse et le taux de chômage repasse en dessous du seuil symbolique de 10%, ce qui ne s'était pas produit depuis 2 ans. On est à 9,9%.
Si on regarde le chiffre actuel publié par tous les médias de 2,4 millions, ça correspond effectivement à une définition extrêmement restrictive du chômage. Si on ajoute les gens qui sont en emploi à temps très réduit et qui cherchent un vrai emploi, et les gens qui n'ont pas d'emploi et qui cherchent un CDD ou un travail à temps partiel, on aboutit à 3 700 000, ce qui est beaucoup plus évidemment. Le fait est que depuis une dizaine d'années, progressivement, les gouvernements successifs ont restreint le champ du chiffre officiel, si vous voulez. Petit à petit, on a exclu des catégories de chômeurs parce qu'on considère que ce n'est pas des vrais chômeurs, entre guillemets. Et ça définit un petit peu vraiment tout le débat qu'on a aujourd'hui à avoir autour de qu'est-ce que c'est que le déficit d'emploi dans notre pays. Est-ce qu'il peut vraiment être mesuré par un chiffre comme les demandes d'emploi en fin de mois de catégorie 1, qui est le chiffre sur lequel se focalise le débat public?
C'est le problème de la mesure, en effet, du non-emploi. Donc c'est pour ça que, en effet, ces chiffres du chômage, ils ne rendent pas compte des dégâts de la crise de l'emploi. Ils ne rendent pas compte des ravages du chômage qui vont très très au-delà du taux de chômage que l'on commande tous les mois. Et cette barre, ce seuil fatidique des 10%, il n'a franchement pas beaucoup de sens. Qu'est-ce que ça change, 9,9 par rapport à 10,1? Et d'autre part, c'est un taux global qui ne nous dit rien sur les inégalités entre hommes et femmes. Les femmes sont beaucoup plus au chômage que les hommes. Qui ne nous dit rien sur les inégalités en matière d'âge. Les jeunes sont bien plus au chômage. Et parmi eux, les jeunes femmes sont beaucoup plus au chômage. Les ouvriers sont la catégorie sociale qui est le plus exposée au chômage, de très très loin. On nous parle beaucoup du chômage des cadres, mais le chômage des ouvriers, c'est celui-là qui explose. On nous parle pas beaucoup du chômage des immigrés, des étrangers, celui-là, il est extrêmement fort. Donc, vous voyez, ces chiffres globaux qu'on nous commente, d'une part, ils sont très restrictifs, et d'autre part, ils ne nous disent pas grand-chose des problèmes sociaux qui sont créés par le chômage.
Est-ce qu'on peut donner quelques ordres de grandeur, justement, à défaut de chiffres, justement ?
Les gens qui ne sont pas comptabilisés dans la statistique officielle, bien qu'ils soient inscrits à la NPE, aujourd'hui, c'est environ 40% des demandeurs d'emploi. Et c'était 10% il y a une vingtaine d'années.
Vous avez 2,4 millions d'après le chiffre officiel. Si vous ajoutez l'ensemble des catégories 1 à 8 inscrits à l'NPE, vous avez 3,8 millions. Hein, donc,
c'est 40% de 3,8 millions.
C'est ça, voilà, tout ça, à fait.
Oui. Bon, voilà, on a une famille, 5 personnes, 4, 3 sont au chômage, dont une même pas inscrite, mon fils, mais en recherche d'emploi. La quatrième bosse en intérim et l'autre est au collège.
Vendredi, 15h07. Vous avez candidaté le 7 septembre sur l'offre de technicien-technicienne de maintenance en informatique, numéro 72-23-69E. Votre candidature n'a pas été retenue car votre formation ne correspond pas à celle souhaitée par l'entreprise. L'ANPE étudiera avec attention toute nouvelle candidature que vous enverrez sur d'autres offres. L'ANPE vous remercie. L'ANPE vous remercie de votre attention.
Thomas Coutreau, sur ce cadre qui est le taux de chômage, pourquoi tout le monde s'agit-il sur un indicateur qui n'est pas le bon, ou qui n'est pas suffisant en tout cas?
Alors, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas, dans le débat public, à faire évoluer, à enrichir un petit peu la batterie d'indicateurs? Et pourquoi est-ce qu'on est toujours scotché à cet indicateur du taux de chômage ou du chômage à NPE avec cette catégorie, cette notion si restrictive? Eh bien, moi, je crois qu'en dernière analyse, ce qui se passe, c'est que pour les hommes politiques, pour les gouvernants, le chiffre du chômage, ils ont l'impression, peut-être qu'ils se trompent d'ailleurs, mais ils ont l'impression que c'est quelque chose sur lequel ils peuvent agir à court terme.
Avec une priorité, l'emploi.
Par exemple, on voit en ce moment une multiplication des radiations de demandeurs d'emploi inscrits à l'NPE, une multiplication des convocations de chômeurs qui visent évidemment à radier ceux qui ne se présenteront pas à l'agence. C'est ce qu'on appelle le traitement statistique du chômage qui s'est beaucoup développé ces derniers mois. Ça, c'est périodique, hein, pratiquement chaque gouvernement en a connu ça. Donc c'est cette illusion que ce chiffre-là, au moins, on le contrôle, hein, on est capable d'agir dessus à court terme. Et ça, c'est rassurant pour le politique qui veut faire des effets d'affichage.
Je vous appelle parce que j'ai été radiée de l'NPE. On m'a envoyé un courrier pour me dire que j'étais radiée tout bonnement. On me signifie que je ne suis pas venue le 22 août. Et donc à partir de là, ben tant pis pour moi, ben j'étais une chômeuse avant. Puis maintenant, je suis rien. Je serai plus rien. Bon, eh ben, j'en rigole, et puis j'en rigole pas. Non, je sais plus. Je m'appelle Sherazade. Ah, j'ai honte de moi. Allez, bisous, ciao.
L'ANPE vous remercie. L'ANPE vous remercie de votre attention.
Ce que montre le chiffre du chômage, c'est qu'on échappe difficilement à un certain fétichisme du chiffre. Surtout lorsqu'il est répété. Comme on sait que le chiffre de chômage tombe chaque mois, ben on le commente. Et ben je crois qu'effectivement, il y a une grande force dans la répétition. Et il y a un vrai paradoxe, c'est-à-dire que je pense que de plus en plus de gens sont conscients du fait que ce chiffre-là ne traduit pas vraiment la réalité que eux vivent eux-mêmes ou leur famille et leurs amis. Et je pense que il y a peu de gens, franchement, qui pensent que les choses vont mieux simplement parce que la statistique baisse.
Salut Daniel, c'est un agent de la CEDIC qui t'appelle. Je viens d'entendre le message d'un agent de la NPE. Je voulais confirmer tout ce qu'elle raconte parce que nous aussi à la CEDIC on voit bien toutes ces radiations massives qui sont effectuées. Et puis récemment il y a eu d'autres trucs qui sont mis en place. Nous, agents de la CEDIC, on va pouvoir sanctionner les demandeurs d'emploi. On va pouvoir leur couper leurs allocations, on va pouvoir les faire radier. Et ça, ben, c'est tout nouveau et c'est passé pendant l'été, ce décret-là, du 2 août 2005. Et puis, y a un nouveau truc aussi, la convention de reclassement personnalisé, la CRP, qui fait que désormais tous les licenciés économiques pour les entreprises de moins de 1000 salariés seront non pas considérés comme des chômeurs en catégorie 1, 2 ou 3, c'est-à-dire ceux qui comptent statistiques, enfin, surtout les catégories 1, ceux-là, ils seront considérés comme stagiaires de la formation professionnelle pendant les 8 mois que dure la CRP. Voilà comment on fait baisser les chiffres du chômage. C'est écœurant ce qu'on nous demande de faire. Voilà.
Il y a une autre raison plus fondamentale, je pense, qui fait qu'on n'arrive pas à se débarrasser de ce monopole du taux de chômage ou du chômage à NPE. C'est le fait que l'essentiel des politiques d'emploi depuis 20 ans, ça a consisté à développer la précarité pour réduire le chômage. À développer toutes les formes d'emploi précaires, flexibles, à temps partiel, à durée déterminée, en intérim, etc. Donc,
mieux que rien.
Le leitmotiv, c'était mieux vaut des miettes d'emploi que pas d'emploi du tout. Et ça, c'était pratiquement tous les gouvernements depuis 20, 25 ans ont essayé de mener des politiques de ce qu'on appelle flexibilisation du marché du travail, c'est-à-dire développer des emplois, certes de moins bonne qualité, mais plus nombreux. Essentiellement en réduisant le coût du travail, en facilitant le licenciement. Là, vous avez récemment l'invention du contrat nouvelle embauche qui véritablement fait sauter tous les obstacles au licenciement qui pouvaient exister jusqu'à présent pour les entreprises.
C'est-à-dire en allongeant la durée pendant laquelle on peut être licencié du jour au lendemain sans...
sans préavis et sans motif explicite.
Soit tout le temps en période d'essai, en fait.
Voilà, 2 ans de période d'essai, si on peut appeler ça une période d'essai. Donc, la plupart des politiques menées depuis 20-25 ans ont consisté à... essayer de réduire le chômage en développant l'emploi précaire.
Justement, depuis 20 ans, l'emploi précaire s'est développé dans l'Hexagone. Mais en face de ralentissement, ce sont eux qui trinquent, et de plus en plus.
En rassemblant tout, on dit qu'on a travaillé tant de temps, et puis bon, en fin de compte, c'est une heure, deux heures, ou des matinées. Ça peut être une journée, ça peut être deux. Et une seule fois, j'ai eu un contrat d'un mois.
Aujourd'hui, il est difficile pour les gouvernants de reconnaître que l'emploi précaire est devenu un problème. C'est difficile d'admettre que la précarité, qui a été systématiquement développée par les politiques publiques, par les politiques d'emploi, au nom de la lutte contre le chômage à tout prix, il est difficile d'admettre que la précarité est devenue un problème social aussi grave que celui du chômage, puisque c'était la solution. On croyait que c'était la solution de développer l'emploi précaire. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est un problème, mais c'est difficile... de prendre acte officiellement. Faire ça, ce serait reconnaître que le remède qu'on a trouvé n'est pas forcément meilleur que le mal. Et ça, ce serait véritablement une remise en question importante pour les politiques publiques, et je crois que c'est ça qui explique fondamentalement le fait que nos responsables politiques s'accrochent à un indicateur dont tout le monde sait qu'il est insatisfaisant. Même les gens d'ailleurs qui ont des emplois stables en apparence ont souvent l'impression d'être sur un siège éjectable. Il y a un sentiment d'insécurité dans les entreprises, y compris dans les grandes entreprises, y compris chez les gens qui ont 10-15 ans d'ancienneté, qui fait que les statistiques officielles sur le taux de chômage ne reflètent pas du tout ce sentiment de frustration, d'insatisfaction et d'insécurité qui règne sur le marché du travail.
Ça, c'est comme les prix à l'agriculture. On les maintient fictivement... pour ne pas avoir de manifestation, pour dire que ça va bien. Mais là, c'est pareil. On modifie les statistiques comme on veut. On crée des CES, on crée des conneries comme ça pour dire il y a moins de chômage.
Les derniers chiffres le prouvent. En octobre, les intérimaires ont été les plus nombreux à s'inscrire au chômage.
On comprend les gens, on les utilise le temps dont on a besoin d'eux, et puis on les jette. Et c'est pour ça que personne n'est à l'abri. C'est chacun pour soi.
Donc ce sont, je crois, même du point de vue des politiques, c'est contre-productif. Le fait de s'accrocher à cet indicateur unique et complètement réducteur les amène à s'aveugler sur la réalité des problèmes et sur la façon, même dans leur électorat, peut juger leur action.
Plus 6%.
0,5% du taux de 1,6%, alors que...
Plus 0,5%.
Ce qui fait un total de 100 000...
Alors, tout le monde n'est pas aussi malheureux, hein. Il y a quand même des profits dans tout ça, des profits pour les groupes cotés, même des profits exceptionnels, avec des dividendes qui sont servis aux actionnaires, 22 milliards d'euros pour les groupes du CAC 40 en 2004, 10 milliards... de rachat d'actions et des fantastiques rémunérations pour les dirigeants. Et tout ça va de pair, si on peut dire, avec un développement des bas et des très bas salaires. Actuellement, 29% des salariés perçoivent un salaire inférieur à 1,3 SMIC, soit approximativement 1100 euros. On voit que se creusent la précarité et en même temps les inégalités dans notre pays. Mais vous savez, quand on prépare des émissions comme celle-là, eh bien, on fait une documentation avec Pascal Pascariello, avec Guy Ventil, on a fait une documentation. Et pour la première fois dans notre dossier de documentation, j'ai le chiffre du chômage, mais dans les argumentaires du Front National. Dans les argumentaires du Front National, on étudie ces chiffres et on conclut que le chiffre du nombre de chômeurs réels est donc bien plus élevé que ne le laissent penser les statistiques officielles. Il faudrait s'inquiéter de ce qu'une magouille chiffrée peut apporter de grain à moudre à certains. On continue.
Marguerite, si je comprends bien, il y a
le chômage, c'est un problème général, un problème de société, un problème pour les politiques et pour les citoyens.
Contre le chômage. Et on se demande parfois si les politiques contre le chômage ne sont pas avant tout des politiques contre les chômeurs.
Au-delà des discours officiels, c'est quelque chose qui arrange beaucoup de gens. Enfin, beaucoup de gens, peut-être pas beaucoup, mais enfin, en tout cas un certain nombre. Ben, la pression du chômage permet justement d'expliquer pourquoi on a depuis 20 ans une quasi-stagnation du pouvoir d'achat des salaires. Parce que ça fait taire les revendications salariales, tout simplement.
Ça veut dire qu'il y a la flexibilité, il y a ceux qui la promeuvent et puis il y a ceux qui la subissent.
Oui, on nous dit il faut être flexible, il faut accepter des baisses de salaire, des conditions de travail. Mais encore une fois, quand les bénéfices de la croissance depuis 20 ans ne vont pas à ceux à qui on propose d'accepter ces conditions, je pense qu'il y a un vrai ras-le-bol dans la société.
La bourse.
François Chevalier, vous êtes stratégiste chez VP Finance.
Il faut savoir que le pire ennemi des profits, c'est le plein emploi. Parce que le pire ennemi des profits, c'est le plein emploi. C'est le plein emploi. Or, on est loin du plein emploi.
François Chevalier, merci. Je rappelle que vous êtes stratégiste chez VP Finance.
Thomas Coutreau.
C'est une vieille histoire. Le chômage a toujours été employé dans les économies capitalistes. Le chômage a toujours été employé par les entreprises, par les employeurs, pour calmer les revendications des salariés qui sont en place, hein, en leur montrant la file d'attente à la porte de l'entreprise et en leur disant « si vous n'êtes pas content, il y en a d'autres qui prendront volontiers votre place ». Donc ça, c'est aussi vieux que l'histoire du capitalisme. Ça a trouvé des nouveaux noms aujourd'hui dans la théorie économique. Les économistes aiment bien parler de chômage d'équilibre.
C'est un terme. C'est-à-dire, ça, je ne connaissais pas.
C'est un terme assez amusant, le chômage d'équilibre, selon les économistes libéraux. Et ben, c'est justement le taux de chômage qui est nécessaire pour calmer les revendications et empêcher les hausses de salaire, et donc empêcher l'inflation.
C'est le bâton, quoi.
Voilà, c'est
on n'a plus besoin de la carotte, maintenant on se contente du bâton.
Ben, la carotte peut être utile, mais le bâton est en tout cas nécessaire. Un certain nombre d'experts, notamment ceux de l'OCDE, estiment que le taux de chômage d'équilibre en France est autour de 8 à 9%. Autrement dit, il n'est pas souhaitable, dans l'état actuel des choses en France, que le chômage baisse en dessous de ces niveaux, de 8 à 9%, parce que ça risquerait de réveiller les revendications salariales, essentiellement, et donc de réveiller le démon de l'inflation, qui est une chose dont les investisseurs financiers ont horreur. Et donc, il n'est pas question, pour les économistes libéraux, que le taux de chômage puisse baisser au-delà, en-dessous de ces niveaux. Alors, sauf si, on arrive, comme ça a été le cas aux États-Unis, à casser suffisamment les organisations syndicales et les conventions collectives pour que, même à 4 ou 5% de taux de chômage, les salariés ne soient pas en mesure de revendiquer des hausses de salaire. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis dans les années 80. Mais ça, en France, on n'en est pas encore là. Et donc, ça explique le succès chez les économistes de cette notion de chômage d'équilibre qui est un petit peu là pour nous rappeler que il faut être raisonnable.
7h51 sur RTL, Jean-Michel Apathy.
Bonjour Laurence Parisot. Vous dites que le chômage en France, c'est une véritable honte.
Écoutez, oui, je pense que c'est une honte parce que ça fait 25 ans que notre pays bat des records de taux de chômage. Il faut en France libéraliser le marché du travail. Notre conception des offres et des demandes en matière de travail est beaucoup trop rigide, n'est pas adaptée à l'économie d'aujourd'hui, qui est une économie où il faut réagir rapidement. Il faut que l'emploi s'adapte à l'activité et non pas l'inverse.
Thomas Cotron.
Il y a quelques années, un rapport du commissariat du plan avait tenté assez honnêtement d'évaluer l'ampleur du problème du chômage et du sous-emploi en France. C'est un rapport officiel, donc le rapport Guénot, qui avait abouti à une estimation de l'ordre de 7 millions de personnes concernées directement par le chômage et les personnes qui sont dans des situations extrêmement précaires. Donc ça fait au total 7 millions, c'est-à-dire près du tiers de la population active. Alors si vous ajoutez à ça les gens qui rentrent et qui sortent de ce type de situation, parce que vous avez, c'est pas des situations statiques, en effet, c'est pratiquement près de la moitié de la population active en France qui est directement touchée et concernée par le problème du chômage et de la précarité. Bon, il y a toute une série d'indicateurs comme ça qui sont tout à fait faciles à construire, hein. L'appareil statistique permet parfaitement de le faire, mais autour desquels visiblement on ne souhaite pas véritablement provoquer le débat. Puisqu'aujourd'hui, on nous focalise beaucoup sur le chiffre officiel dont tout le monde sait, en tout cas chez les spécialistes, qui reflète de moins en moins bien la réalité des problèmes de l'emploi, mais qui a un gros avantage, ce chiffre officiel. Il a un gros avantage, c'est qu'il est largement manipulable.
On s'aperçoit que le taux de chômage n'est pas le bon chiffre à avoir sous les yeux. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ce cas-là? Comment avoir une meilleure image, une image plus nette des maux socio-économiques dont nous sommes victimes?
Dans le cadre du réseau d'alerte sur les inégalités, le RAI, on a essayé de développer un baromètre qui s'appelle le BIP 40, le baromètre des inégalités de la pauvreté, où on propose...
C'est pas le CAC 40, quoi.
Non, c'est effectivement un petit pied de nez au CAC 40, mais c'est un peu le baromètre des pauvres, hein, c'est-à-dire celui qui mesure la croissance de la pauvreté.
C'est-à-dire comment va-t-on mal, en fait?
Oui, on prend plusieurs dimensions, notamment celle de l'emploi, enfin, mais aussi les inégalités de revenus, les inégalités en matière de santé, d'éducation, problèmes de justice. Et donc, on essaye à partir de ces indicateurs de donner une image des difficultés des Français aujourd'hui.
Alors, que nous apprend le BIP 40 et quel est l'état du BIP 40? Parce que le CAC 40, ça, on y a droit toutes les heures. On sait chacune de ces fluctuations. Mais le BIP 40, c'est-à-dire, je rappelle, le baromètre...
Des inégalités et de la pauvreté. Bah, ce qui nous apprend de façon synthétique, c'est que depuis 2 ans, clairement, les inégalités et la pauvreté ont réaugmenté dans notre pays. Hein, ça s'est étassé un petit peu à partir de 98-99. Mais à partir de 2001 et sur 2002 et sur 2003, on voit une croissance très forte et très nette du baromètre. Et aujourd'hui, il est à son plus haut niveau. Alors, plus haut niveau depuis 20 ans qu'on l'a construit.
Nouvelle augmentation du chômage en juillet, plus 1,9% en un mois.
Voilà, merci à tous. Merci à Margaret Marwani, Thomas Coutreau et Pierre Concialdi. C'était un reportage de Guy Vanti. Je rappelle l'ouvrage de Margaret Marwani, Les mécomptes du chômage aux éditions Bayard. Pour toute précision et pour les repères et repères des amis de la BACJ, toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission La BACJ. Technique aujourd'hui, Émilie Couette et Michel Bézikian. Réalisation, Yann Chouquet. C'est sa première réalisation, camarade de Yann. Pourquoi? Eh bien, parce que Marguerite Libertad, ciao, la fille de notre Antoine, est née aujourd'hui. Ce matin, il est assisté Yann de Raphaël Moutarde, assistante de l'émission Pascal Le Pascariello. Le numéro du répondeur de la BACJ Suisse est le 01 56 40 37 37 et c'est Christophe Humbert qui l'écoute. Le mail de l'émission, c'est daniel.mermer@radiofrance.com. Réclame.
La MPE vous remercie de votre attention. Thank you.